Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio à Avignon, aucun rapport avec Paris, mais sur 95.2. Et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec un zoom sur le Chianti Classico. Et on parlera aussi des côtes rôties. On parlera également de bonnes recettes et de bons plans culinaires avec le chef Romain Boiroux et puis le Ville Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. À mes côtés, Hélène Piau, Claude Tassoulas et Philippe Aubrac. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio retrouve donc vous, Hélène, journaliste au magazine Régal, pour accueillir Valérie Pajotin, directrice de l'ANIVI France. Bonjour Valérie.
Bonjour à tous.
Alors l'ANIVI c'est quoi? C'est l'acronyme de quoi? L'ANIVIN, pardon. L'ANIVIN c'est quoi?
L'Association Nationale Interprofessionnelle du Vin de France, donc qui est la catégorie d'origine nationale des vins français.
Très bien. Hélène?
Donc c'est une dénomination qui a 10 ans, joyeux anniversaire.
Merci.
Et c'est une interprofession qui n'est pas forcément connue du grand public, alors que l'appellation Vin de France, elle, est très connue, mais Anivin, les gens vous connaissent pas forcément. Vous avez donc pour mission de défendre ces vins de France, de
évangéliser.
D'évangéliser, absolument, avec un joli slogan, à chacun ses cépages, à chacun son goût.
Tout à fait. Cette interprofession a l'objectif et la mission de promouvoir la catégorie vin de France dans le monde. Donc, elle a été créée il y a 10 ans, donc très jeune comparée à nos appellations d'origine protégée, aux indications géographiques protégées françaises. Et elle a commencé par évangéliser, comme vous le disiez, à l'international. Donc, elle est arrivée relativement récemment à la connaissance de vos auditeurs, des consommateurs français, que depuis quelques années, 3 ans.
Ah oui.
Voilà.
Et ça, donc, c'est un choix stratégique de dire on commence par le reste du monde, après on finira par la France.
Eh ben, c'est assez atypique.
Il n'y a pas de jugement, mais c'est un choix.
L'objectif était véritablement d'améliorer la compétitivité de l'offre française à l'international.
De vendre donc, l'image France à l'étranger.
Exactement. Avec Vin de France, la dénomination simple à comprendre pour les consommateurs dans le monde entier.
Alors, donc les Vins de France aujourd'hui, ce sont 200 millions de bouteilles.
Tout à fait.
Vous vendez 74% à l'hector, si mes chiffres sont exacts.
Et ça fait 15% des exportations françaises en vin tranquille.
Oui, donc c'est déjà en 10 ans.
Ouais. Donc cet export, c'est surtout en Europe, hein, 70% en Europe.
Oui.
Et puis déjà, alors qu'effectivement, ça ne fait que quelques années que vous êtes sur le marché français, vous avez déjà 26% de ces 200 millions de bouteilles, ça en fait, sont vendues en France.
Oui, alors on va dire qu'au travers de notre concours organisé une fois par an avec des acheteurs du monde entier qui viennent sélectionner ces médailles d'or et ces médailles d'argent, les Français petit à petit se sont dit waouh, ces vins sont délicieux, d'un excellent rapport qualité-prix, très intéressant, créatif, assemblant des cépages justement inhabituels venant de régions différentes, puisque c'est la spécificité de l'origine nationale, c'est de pouvoir assembler des cépages de différentes
donc,
régions.
Donc ça veut dire que pourquoi pas un pilote Noir de Bourgogne avec un Merlot du Bordelais.
C'est exactement ça.
On a le droit
ça.
De tout faire.
Et voilà, la liberté. La liberté, c'est la catégorie de la liberté.
Le prix moyen de vente, c'est combien d'une bouteille
Alors,
vin de France en général?
On va plutôt se donner une échelle qui va de 3 euros à 100 euros sur une carte des vins.
D'accord. Donc, mais là, voilà. C'est un prix consommateur TTC.
Oui,
d'accord.
Oui. Donc, on a à la fois toute typologie, on va dire, de l'entrée des vins, on va dire, communs, courants, à des vins élitaires.
Effectivement, parce que cette appellation, c'est aussi un biais pour les vignerons de sortir du carcan des AOC parfois, puisqu'effectivement, c'est une appellation qui revendique, comme Valérie le disait, la liberté, l'air du temps. Donc, vous êtes un vigneron d'un domaine très connu à Saint-Émilion et vous avez envie de vous amuser avec, je ne sais pas moi, du gros plan nantais. Vous pouvez, allez-y, genre, plantez ce que vous voulez où vous voulez, ce n'est pas un problème. Vous le mettrez en vin de France. Et si vous appelez le domaine quelque chose, et ben, par exemple, et ben vous pourrez vendre votre vin de France à 120 euros et il se vendra quand même. C'est ça qui est vraiment rigolo avec cette appellation vin de France. Et alors bon, il y a effectivement des vins à des prix un peu stratosphériques, ouais. Mais d'une manière générale,
sinon, c'est
on
pas très cher, hein.
D'excellents rapports
qualité. On est cœur de marché. Ouais. Voilà. On est cœur de marché. On est en France, en foire au vin. Là, on est entre 4 et 12
euros. Et alors Valérie, est-ce que les Italiens ont un vin d'Italie, les Espagnols un vin d'Espagne ou c'est une spécificité française?
C'est une spécificité française qu'on soit aussi successful, enfin qu'on ait aussi bien réussi, parce que les Italiens ont dans leurs appellations à la fois le cépage et l'origine géographique.
D'accord.
Donc, ils ont dit, non, on ne peut pas faire un vin national de ces cépages qui sont accolés d'habitude à l'origine géographique.
Oui,
bon, donc, ils ont dit, tous les cépages qui sont inclus dans une appellation n'ont pas le droit d'être utilisés dans la dénomination nationale vin d'Italie. Donc, ils ont évidemment nettement moins tiré parti du potentiel de cette catégorie et de cette liberté. Ils sont restés dans le carcan des indications géographiques.
Alors, justement, en vin de France, qu'est-ce qui est obligatoire sur l'étiquette ?
Donc, on a vin de France, la dénomination. Au choix, le cépage et le millésime, qui ne sont obligatoires pour personne. Hein, ça, c'est la liberté.
Donc, on peut ne pas en trouver.
Voilà, bon, exactement. Ça peut ne pas être indiqué.
D'accord.
Voilà. Et on va dire que l'origine, la provenance France, on l'a dans la dénomination. Et après, le nom de la marque, cuvée, du vigneron, voilà. De la cuvée, au choix de celui qui le produit.
Alors, c'est effectivement une catégorie qui prend de l'ampleur. Cette année, pour la première fois, Monoprix dédie un rayon entier au vin de France.
Eh oui, ouais. C'est important.
Donc Monoprix, c'est quand même le grand caviste urbain, on va dire.
Avec de très belles références, d'ailleurs. Voilà, c'est...
Absolument. Et ces vins, donc, qui sont parfois super premium, vous les promouvez à travers ce concours qui a lieu donc, depuis 10 ans.
Voilà, et où on invite des acheteurs du monde entier, donc australiens, brésiliens, pour la première fois cette année, américains évidemment, canadiens, de tous nos marchés stratégiques, Hong Kong, etc. Et c'est véritablement pour eux des médailles qui sont, on ne les choisit pas entre nous, hein, entre
oui, Français,
ils sont
valeur,
véritablement
quoi,
ouais. Une reconnaissance et qui peuvent ensuite après lancer sur leur marché et nous ensuite on en fait la promotion dans leurs magasins, dans le monde entier.
Merci beaucoup Valérie, merci également vous Hélène, il est dessus Radio, retour à présent Philippe Forbrac, président de la sommellerie française pour nous emmener en Italie. Petite balade, un 5 à 7 à Venise avec Hélène, c'est ça le programme aujourd'hui
ou pas ? Un peu plus au sud de Venise parce qu'effectivement on a quitté les vins de France pour aller goûter un peu les vins d'Italie.
Oui, et moi, l'appellation... J'étais prête moi, là.
C'est gentil mais on peut...
Posez votre valise là déjà.
Ça peut s'organiser mais...
Laisse les gondoles à Venise.
Plus exactement, et on va aller plutôt en Toscane puisque c'est l'appellation la plus connue d'Italie parmi les plus connus au monde d'ailleurs, l'appellation Chianti. Alors il faut dire que c'est une appellation historique, depuis le XIIIe siècle on produit du vin et même l'appellation, même s'il n'a été reconnu que quand les appellations d'origine contrôlée italienne, les DOC et les DOCG ont été reconnues au début des années 60, mais on parlait déjà du Chianti bien entendu bien avant. Et c'est une appellation qui a été rendue célèbre pour plein de raisons. D'abord l'attraction de la région, c'est très beau. Florence et Sienne, c'est deux très jolies villes qui se font un peu la guéguerre historique depuis toujours. La célébrité de la famille Médicis également, qui ayant rayonné économiquement parlant et culturellement parlant pendant très longtemps, est rayonné jusqu'en France, avec notamment sur l'époque de Catherine de Médicis et François Ier. Et donc c'est une région qui a toujours été attractive. La qualité des vins aussi. Ils sont toujours appliqués à faire des vins de qualité. Et l'appellation Chianti, avec son fameux cépage, le Sangiovese, mais également le Canaiolo, et aujourd'hui quelques cépages bordelais, je pense au Merlot, au Cabernet, qui viennent un petit peu s'immiscer dans tout ça, permet d'avoir des vins qui ont eu de la réputation. C'est-à-dire des vins qui pouvaient se garder, voire se conserver, et surtout voyager. Et il y a ces fameuses fiascos. Ces fiasques qui étaient entourés d'osiers avec un col un peu allongé qui a aussi fait partie de la légende et de la culture des souvenirs qu'on peut avoir de Chianti. Moi je me souviens gamin quand mon papa allait en Italie on ne pouvait pas ne pas ramener justement une de ces bouteilles là qui ensuite servait un peu de décoration, etc. Donc ça fait partie du marketing de l'époque et l'appellation en a bénéficié.
Bénéficié, alors, oui et non, parce qu'effectivement, on a longtemps cru que c'était un support à bougeoir. Enfin,
c'est vrai. C'était, oui, mais voilà, comment garder les étiquettes
pour les bougies, hein, le Chianti.
Marquez et Antinori, Riccazzoli, tous les grands noms de Toscane apparaissaient, et du coup, ça a véhiculé quand même cette fameuse légende du Chianti. Alors, il y a le Chianti basique, celui qu'on trouve encore, d'ailleurs, vendu en fiasque de moins en moins, mais qui existe. Et puis, il y a le Chianti Classico, qui est une appellation DOCG, donc d'émission d'origine contrôlée et garantie. En Italie, ils garantissent l'appellation.
Ah bah, s'il y a bien un pays qui est carré, c'est l'Italie. Hein.
Exactement. Et donc, cette appellation Chianti Classico, c'est le cœur historique de l'appellation, qui finalement est devenue très grande aujourd'hui. Ce sont les quatre villages de base, situés dans un triangle qui est Florence, Sienne et Pise, dans lequel il y a effectivement cette tradition. Pour faire du Chianti Classico, et notamment le Reserva, par exemple, il faut 12 mois de vieillissement en fût, 3 mois de vieillissement en bouteille avant la mise en marché. Ils ont même... upgrader la volonté de faire mieux. Et en 2014, ils ont créé ce qu'ils appellent Grande Selezione. Et là, c'est 30 mois minimum d'élevage avant la commercialisation, ce qui leur impose quand même un stockage non négligeable.
Bien sûr, ça coûte cher. Quoi.
Et du coup, c'est réservé qu'aux producteurs, pas aux négociants. Et ça permet effectivement de positionner le Chianti Classico dans un bon niveau, j'allais dire, de vin à l'international, même s'il y a des Chianti basiques qui se vendent franchement pas cher. On peut trouver des Chianti à 5 euros.
Oui, même moins que ça.
Exactement. Et dans les Classico, les Reserva, les Grandes Avas, les Grandes Selezioni, effectivement, on va se retrouver plutôt autour d'une trentaine d'euros. Ouais. Mais ça devient effectivement un très, très, très joli vin. Alors, ça peut se garder. Les Classico peuvent se garder facilement 10 ou 15 ans, sans problème. Et parfois davantage. Ce sont des vins de jolie gastronomie. Alors, bien sûr, l'Italie ne manque pas de recettes entre les pâtes, les risottos, les fromages, les viandes,
c'est vraiment un beau pays,
etc. Hein. Il y a vraiment, voilà,
et
vraiment
les hommes,
plein de choses.
Excusez-moi, je m'égare.
Il n'y a que les femmes qui sont moyennes. Quand même.
Une alimentation
gastronomique. Je ne sais pas, ça ne m'intéresse absolument pas.
Très intéressant.
Sublime, les italiennes.
Non, je ne les ai pas vues.
Moi, une de mes recettes fétiches en Italie, c'est le Vitolo Tonnato. J'avoue que c'est une recette que j'adore, y compris avec les rouges.
C'est vraiment très beau.
Vous connaissez
Claude Zazzola, ça peut.
Je pense que j'en ai déjà.
Ah oui, bah vous qui allez souvent en Corse, on n'est pas très loin.
Carpaccio de veau avec une sauce au thon, voire aux anchois.
Ça y est, on a faim. Ouais. Ça, c'est beau, on a faim. C'est tout le temps faim que vous parlez.
J'avais une question, Philippe. Est-ce qu'on peut dire que les Chianti Classico sont les crus du Beaujolais par rapport au Beaujolais le Chianti Classico par rapport à l'appellation Chianti.
Si on compare aux deux, ouais. Oui,
c'est ça, en termes de budget, en termes de.
Oui, c'est un bon parallèle.
De rapport de prix.
Les moulins à vent
les crus du Beaujolais.
Les Morgons, notamment, pourraient être effectivement.
Un ou deux vignerons, peut-être, Philippe, pour terminer, qu'il faut qu'on aille voir d'ailleurs.
Oui, j'en ai cité déjà quelques-uns.
Oui, c'est vrai.
Castelodiama, par exemple, j'adore. Le Castello di Fonte Rutoli, ça fait partie aussi des très grands. Et puis peut-être un dernier, Castello Banfi, qui produit aussi des Montalcino magnifiques, mais
très
des Chianti aussi terribles.
Merci beaucoup, Philippe Forbach. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec le Vino Quiz.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas, Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Piau et le Ville Quiz. Hélène.
Oui, j'ai une bonne nouvelle, vous allez enfin vous y connaître en vin, puisque c'est le titre du livre de David Cobold que vous gagnerez cette semaine si vous remportez notre Vino Quiz en répondant à cette question. Quel événement a été organisé par les Domaines qui montent le mois dernier? Réponse A, le duo perdant. Réponse B, le 15 gagnant. Ou réponse C, les indestructibles. Là, à mon avis, c'est quand même pas très très compliqué. Pour répondre et gagner le livre « Vous allez enfin vous y connaître en vin » de David Cobold et Sébastien Durand-Vielle, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort.
Merci Hélène. Invino Studio Radio retrouve Claude Tassoulas, dirigeant d'entreprise et grand amateur de vin qui s'intéresse à une belle région, un beau vignoble, les Côtes-Rôties.
Oui Alain, alors le vignoble de Côte-Rôtie, on en parle régulièrement dans cette émission, c'est l'appellation la plus au nord de la vallée du Rhône, située au sud de Lyon. Elle couvre aujourd'hui 320 hectares autour du village d'Ampuy. Et en fait, elle est constituée de 75 lieux-dits cadastrés qui sont situés sur des terroirs très différents en termes de sol, d'exposition et surtout d'inclinaison. En fait, il y a 20% de l'appellation qui est située sur un plateau qui n'a absolument rien à voir avec les fameuses terrasses que l'on voit après le péage de Vienne, en remontant sur l'autoroute A7 vers Lyon. En fait, il y a des inclinaisons jusqu'à 60%. Donc entre ça et puis le plateau au-delà des... ça fait vraiment des vins très, très différents. Donc, je me suis intéressé au développement des cuvées parcellaires, sachant qu'il n'y a bien sûr aucune classification dans l'appellation, ni de notion de cru ou de climat comme on peut l'avoir en Bourgogne, malgré la grande diversité des terroirs de cette appellation. Alors, pourquoi faire des cuvées parcellaires ? Alors, la première réponse, c'est que le parcellaire, ça se vend en général mieux et plus cher, sachant que les vignerons ont tendance à mettre leurs meilleurs raisins dans ces parcelles. L'inconvénient, c'est bien sûr que la cuvée d'assemblage peut en pâtir un petit peu et donc peut baisser en termes de qualité. Puis la deuxième réponse, c'est bien sûr la diversité des terroirs que j'évoquais, qui permet d'avoir des vins différents en fonction des terroirs considérés. Alors, les grandes cuvées que tout le monde connaît, les cuvées parcellaires qui ont contribué au rayonnement de l'appellation Côte-Rôti, ce sont bien sûr les cuvées de Guigal que tout le monde connaît, enfin qui sont connues dans le monde entier, donc la Mouline qui a été créée en 66, la Landonne en 78, la Turque un peu plus tard. En fait, il est intéressant de noter que la Mouline et la Turque sont des marques commerciales, ce ne sont pas des lieux-dits, alors que la Landonne est un lieu-dit. La Mouline vient de la Côte Blonde et la Turque vient de la Côte Brune.
Encore une histoire de Turque. On parle déjà de Turque récemment dans cette émission. On parle beaucoup de Turque.
Ah bon? Et donc, depuis les années 80, il y a beaucoup d'autres cuvées parcellaires qui sont apparues, rattachées en général à un lieu-dit, comme les Grandes Places ou la Vialère de Gérin, les Bons Vivières de Cuiron, Rose Pourpre, ça vient de la Côte Rosier de Gaillard. En fait, j'ai eu l'opportunité de visiter le domaine de Stéphane Augier cet été, et c'était pour moi un vrai coup de cœur, un domaine que je connaissais mal. Donc, Stéphane Augier, c'est 12 hectares en Côte-Rôtie, et j'ai trouvé son approche extrêmement intéressante au niveau des cuvées parcellaires. En fait, lui part du constat que les vins qu'il produit, c'est le reflet du terroir, donc de chacun de ses lieux-dits. Et donc, il a deux cuvées d'assemblage, qui incluent la grande majorité de ses lieux-dits, mais il garde chaque année 2-3 barriques de chacun de ses lieux-dits pour faire des vins qui reflètent vraiment le terroir. Et donc, il a ce qu'il appelle ses grands crus, donc ce sont 3 cuvées, la Côte Rosier, c'est sous la marque Belle Hélène, la Côte Blonde et puis Lancement. Et puis ses premiers crus, donc il en a fait 7 pour l'année 2015, et chacun de ces vins reflète vraiment le terroir. Si j'en prends 2 par exemple, le Brut de Mont, qui est vraiment tout en délicatesse, qui est sur un sol plutôt granitique et de gneiss, avec des tanins très très fondus, et d'autre part Fongeant, qui est un autre lieu-dit, sur des sols beaucoup plus argileux. Ça donne des vins très structurés, avec des tanins très très présents, mais toujours très très fins. Et en fait, il commercialise une caisse de 7 bouteilles. Je n'avais jamais vu une caisse de 7 bouteilles.
Une caisse de 7 bouteilles, c'est original, effectivement.
Donc une de chaque lieu-dit.
Gros problème de la mathématique quand tu étais jeune.
Oui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ses premiers crus, ce qu'il appelle ses premiers crus, sont pas beaucoup plus chers que sa cuvée d'assemblage. Donc je trouve que ça, c'est une vraie, c'est très très intéressant.
Elle est à combien la caisse de 7 bouteilles, vous savez, pour
alors
la,
7 euros. Le lieu dit, bon, ce sont des lieux dits, enfin ce qu'il appelle ses premiers crus, ce sont de très beaux terroirs. On parle d'une centaine d'euros la bouteille quand même.
La, oui,
la bouteille,
voilà. Mais c'est 15% de plus que sa cuvée d'assemblage.
C'est très bon, mais c'est très cher, les Côte-Rôtie.
Ouais. En tout cas, à ces niveaux de qualité, je trouve que c'est très, très intéressant. Et j'ai essayé de faire j'ai réfléchi au parallèle avec la Bourgogne, parce qu'en fait, en Bourgogne, la règle, c'est qu'on, bah, évidemment, on n'assemble pas les lieux-dits. Enfin, il y en a quelques-uns qui le font, mais ce sont des exceptions. Et encore moins on n'assemble pas les premiers crus et encore moins les grands crus, je suppose pour des raisons économiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Moi, de mon point de vue, c'est un petit peu l'histoire de ces vignobles qu'il faut reprendre, puisque je pense que les moines de Cîteaux qui étaient en Bourgogne, qui ont fait finalement tous ces crus, ils les ont même clôturés avec des murs. Je suppose qu'ils ne sont pas passés en vallée du Rhône.
Oui,
et ils ont
ça,
laissé.
Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Forbach? Justement, c'est une bonne remarque de Claude. L'histoire de ces clos, il faut fermer, pas fermer, mélanger, pas mélanger.
Premier cru en Bourgogne versus... Est-ce qu'il y aura une possibilité un jour de faire des crus?
Ça fait partie des réflexions. L'INAO y pense régulièrement. Et dans différentes appellations, en Côte-Rôti, ça pourrait se justifier parce qu'il y a vraiment des styles de vins différents. J'ai expliqué tout à l'heure des terroirs différents. Les vignerons déjà hiérarchisent parce que les prix ne sont pas les mêmes. Mais on pourrait effectivement envisager de faire une hiérarchisation dans ces différents types de territoires.
Et je trouve que la Côte-Rôtie, je trouve que c'est probablement l'appellation principale dans le nord des côtes, dans les côtes du Rhône. L'Ermitage, il y a des cuvées parcellaires, mais des gens comme Chaves refusent absolument de faire des cuvées parcellaires.
Eux pensent que l'assemblage, effectivement...
C'est ça.
C'est un vrai choix.
Il fait partie de leur philosophie, c'est respectable aussi. Hein.
Oui, puis je ne suis pas sûre que ça aide beaucoup le consommateur de faire encore des crus, des micro-cuvées,
Vous avez aussi raison, Hélène, vraiment.
On voudrait juste du vin, s'il vous plaît.
Merci en tout cas, Claude. Excellent sujet. Invino Sud Radio retrouve maintenant Hélène Piau en compagnie d'un jeune homme très sympathique qui fait un super boulot depuis 3 ans chez Nicolas. On l'a invité parmi nous pour parler de sa cuisine. Il s'appelle Romain Boiroux. Bonjour Romain.
Bonjour tout le monde.
Alors vous êtes cuisinier, pourquoi ? La plomberie, ça ne vous intéressait pas ? Devenir prof de maths non plus ?
Non plus. La comptabilité non plus. Donc je me suis retrouvé
mais
dans
c'est familial,
cuisine. C'est familial.
Vos parents
ouais.
étaient déjà cuisiniers ?
Non. Mon arrière-grande-tante était traiteur dans Charente-Maritime. Toute ma famille adore la cuisine. Donc vraiment, on adore ça.
D'accord.
J'ai entendu parler d'une arrière-grand-mère cuisinière, j'ai entendu parler de choses comme ça. Alors, il paraît, Romain Boiroux, que vous êtes tombé dans la cuisine à 6 ans. Moi, je ne connais aucun autre enfant qui a commencé à 6 ans à faire un foie de volaille et qui s'en rappelle encore 20 ans après.
Surtout un foie de volaille.
Les crêpes.
Mais bon, c'est ça.
C'est pas très bon.
À 6 ans, si on tombe dans la cuisine, soit on y reste, soit on se le relève et on y va.
Romain, il est resté. Les autres enfants, ils font des gâteaux au chocolat, ils patouillent vaguement un vague gâteau au yaourt. Romain Boiroux, à 6 ans, il s'est lancé dans le foie de volaille. Et puis, quand il faisait des gâteaux avec son meilleur ami à 6 ans, lui, eh ben, il commençait par moudre le blé, vous voyez. Je vous présente donc Romain Boiroux, chef chez Nicolas. La place de la Madeleine, 29 ans, et ça fait déjà 23 ans qu'il est en cuisine, ce garçon. Alors, effectivement, on a failli le perdre à un moment donné avec des études de comptabilité. On est très content qu'il s'en soit échappé.
Mais on manque de comptables en France, hein. Oui. Attention. Hein,
oui, mais on manque toujours de bons cuisiniers aussi, c'est toujours sympa.
Oui, c'est vrai, il faut remercier les parents qui m'ont poussé dans la cuisine.
Et depuis qu'on a des caisses de 7 avec Claude, maintenant, on doute de tout. Quoi.
Et puis, perso, parmi mes copains, moi, je préfère avoir des cuisiniers que des comptables. Vous faites ce que vous voulez, Alain, le samedi soir, c'est quand même plus sympa. Donc, effectivement, joli parcours donc pour Romain. Je vous laisse résumer. Il y a eu un CAP d'un an à Ferrandi et puis après directement à Anne-Sophie Pic.
Oui, pendant le CAP. Donc c'était mon apprentissage pendant le CAP. Donc un an chez Anne-Sophie Pic à l'ouverture de la Dame de Pic. Donc c'était très bien.
Donc vous fermez, c'est la seule femme, le seul chef qui a eu 3 macarons.
Exactement.
Incroyable.
En France.
Et puis Jacques Fossa, une étoile au Michelin, des traiteurs, Potel et Chabot, d'Aloyau, l'ouverture de Ducasse au château de Versailles, quand même, belle référence.
Bien sûr.
Et puis, il y a maintenant 2 ans et demi environ, vous arrivez chez Nicolas, et nous, ici, autour de la table, on est très contents parce qu'on a la chance de goûter régulièrement vos plats. Donc j'encourage nos auditeurs à venir aussi, place de la Madeleine. On est en octobre, il commence à faire un peu moins beau. Qu'est-ce que vous nous proposez pour nous réchauffer un peu, là ?
Alors moi, j'adore, c'est la selle d'agneau qu'on propose au restaurant en ce moment avec des petits champignons. Donc on demande au boucher de bien.
Alors, hors commun. Romain, oui. L'agneau, il vient d'où déjà ?
De chez le boucher.
Ah, et avant ça, Sisteron, les prés salés Sisteron, de la Manche, Pauillac.
Sisteron, vous préférez Sisteron ?
Oui,
ah, ça fait plaisir à Philippe pour voir que ça. Ouais, alors ensuite, donc une fois qu'il est arrivé, il y a quelques kilomètres, il arrive à Paris.
Il arrive à Paris, donc on le prend vraiment, on le désosse, on le ficelle, on le colore vraiment très bien dans une poêle et on le fait cuire doucement au four. À 120 degrés à peu près, pour qu'il atteigne 59 degrés à cœur, qu'il soit bien rosé. Moi, j'aime
bien
le rosé.
Combien de temps,
à peu près ? Ça dépend de la grosseur,
hein.
Donc c'est 59 degrés. Donc ouais. Si on ne parle pas de temps, on parle de degrés en cuisine, parce que ça dépend de la grosseur.
Ouais. Donc il faut un thermomètre à viande, quand même.
Il faut un thermomètre à viande dans le four. Mais attention, le plastique fond.
Oui.
Ne pas mettre.
Et donc, notre selle d'agneau, une fois qu'elle est bien dorée, comme on veut, et 59 degrés à cœur, avec quoi on la sert alors ?
Moi, j'aime bien avec des petites girolles, les cèpes. On est vraiment dans les champignons en ce moment. On garde bien dans le jus. On fait bien poêler les cèpes et les girolles dans ce jus d'agneau. Et on sert ça tout simplement.
Alors, nous parler de ça avant 13h, c'est un peu cruel. Bon, maintenant, j'ai ma selle d'agneau qui est toute dorée. J'ai ma petite poêlée de girolles et de cèpes. Avec un peu d'ail, oui, non ?
Non. Pas trop d'ail, parce que nous, ils n'aiment pas trop ça, les clients. Donc, on évite avec les allergies.
Si vous aimez l'ail,
personnellement,
j'adore l'ail.
L'ail, un peu de persil.
Même des petites gousses d'ail, que c'est excellent aussi.
Bien sûr.
Si nos auditeurs invitent Philippe Forbrac, sachez qu'il faut forcer sur l'ail. Mais alors, qu'est-ce qu'on boit avec cette selle d'agneau aux girolles et aux cèpes ?
Alors, nous, on conseille le Château Romanin, un Brou de Provence en 2017, biodynamique.
En quelle année ?
2017, oui. Très, très bon cru. On adore ça. Ce qu'on propose au restaurant.
Eh ben, très bien. Est-ce que vous avez quelques plats signature indépendamment du plat du jour, si je puis dire, hein ? Donc, c'est l'agneau. Qu'est-ce que vous aimez bien préparer en général ?
Le poisson, on aime bien préparer le cabillaud. Vraiment un cabillaud cuit à la vapeur.
Ouais.
Tout simple, avec des cocos de Paimpol, par exemple. On est vraiment dedans.
Une petite sauce crème, un petit jus, on fait ça comment ?
Alors, en fait, on récupère le jus des cocos de Paimpol qu'on monte au beurre, tout simplement. L'alléger et ça fait un très très beau plat.
Alors coco de Paimpol, alors là aussi on va pas sur des mojettes de Toulouse.
Non, coco de Paimpol.
On reste sur le coco de Paimpol, c'est important.
Sisteron, Paimpol, des valeurs sûres quoi.
Des valeurs très sûres.
Voilà. Ouais. Et là qu'est-ce qu'on boit sur mon cabillaud au coco de Paimpol ?
Alors nous on conseille un petit Pouilly Vinzelle en 2017 de chez Joseph Drouin.
Ah, c'est joli, ça.
C'est très, très bien fait, ouais.
Oui, Vazel, Philippe, un petit éclairage sur l'appellation peut-être ?
Oui, on est dans le Mâconnais, c'est un vin élaboré à partir de Chardonnay. Très joli terroir à blanc. effectivement, de ce, le vin le plus connu du coin, c'est le Pouilly Fuissé. Mais franchement, le Pouilly Vinzelle est d'un excellent rapport qualité-prix.
Absolument. Mmh. Petite acidité. En 2017, dans ce domaine-là, on va avoir un joli volume. Je le sens bien.
Et les huîtres, en cette période, vous préparez les huîtres un peu ou pas?
On attend un peu. C'est plutôt novembre-décembre.
Oui, là, c'est pourtant cette mi-octobre. Quoi. Bon, très bien. Donc voilà, c'était le coup de cœur avec les bonnes préparations. Là, j'ai très faim, Hélène. Voilà. Grâce à vous.
C'est Romain Boireau.
Merci, Romain. Merci, Hélène, Philippe et Claude. Merci également à Charlotte. Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.fm ou notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, je crois qu'on est prêt. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.